Interview.
2 jours.
Thomas Legrand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en économie et présent aussi aux rencontres de DIE, hein, de l'écologie, pour sous-titre coopérer pour un territoire vivant. Vous-même donc êtes ici pour présenter votre ouvrage à ce jour à 17h qui s'intitule donc pour politique de l'être, sagesse et science pour construire le nouveau monde. Et demain également, vous serez présent à 10h pour travailler sur quel sujet ?
Vers des systèmes alimentaires conscients, et ça s'appelle.
Et on abordera cet aspect-là aussi. Alors, pour vous, cet ouvrage s'adresse à quel public ?
Alors, je dirais qu'il y a 2 publics, puisqu'en fait, cet ouvrage, il vise à intégrer des éléments de sagesse à la question qui se pose en termes d'évolution de notre société. Moi, je travaille en ce moment au Programme des Nations Unies pour le développement et principalement depuis la dimension écologique, environnementale. Et je suis arrivé à la conclusion que pour qu'on puisse vivre en harmonie dans les limites planétaires, il nous faut redéfinir notre vision du progrès, il nous faut ce qu'on appelle un nouveau paradigme de développement. Et je pense qu'on doit vraiment passer d'une société de l'avoir à une société de l'être.
On peut peut-être parler de votre cheminement. Donc, vous êtes docteur, je disais, en économie et dans une biographie qu'on peut trouver sur le site politicsofbeing.com/fr,
parce que en fait, ce livre a été en effet publié d'abord en anglais.
Et donc, vous avez pris part, il y a quelques décennies, donc un voyage au Mexique à la rencontre de spiritualité. Est-ce que c'est suivre un peu le chemin d'Henri Michaud aussi ?
Alors, pas forcément. En fait, j'ai fait un échange universitaire pendant que j'étudiais à Sciences Po à Paris. J'ai passé un semestre au Mexique. Et c'était pas vraiment prévu, mais j'ai eu cette rencontre très profonde avec la spiritualité indigène et notamment cette reconnexion à la terre-mère, et qui m'a fait en fait comprendre tout de suite intuitivement que c'était le chemin spirituel, c'était ce que j'avais toujours en fait cherché au fond de moi, sans forcément pouvoir y mettre un nom dessus. Et donc ça a complètement changé la manière dont j'ai envisagé ma vie par la suite, et ça m'a fait m'impliquer justement dans des questions d'écologie, notamment la conservation des forêts tropicales. Moi, c'est vraiment cette connexion, elle était, naturellement, elle s'est tournée vers les forêts. C'est vraiment là où je sens que j'appartiens. Et comme je disais, en travaillant sur ces questions, je me suis aperçu qu'on a besoin d'un nouveau paradigme de développement, et que celui-ci qui soit plutôt fondé sur l'être plutôt que sur l'avoir, et que celui-ci en fait il devrait venir refléter une profonde évolution culturelle de la société, et je dirais même une profonde évolution spirituelle, vraiment de se reposer la question de pourquoi on est là, qu'est-ce qui a de la valeur dans la vie. Et je pense qu'on ne pourra pas faire l'économie de cette réflexion, de cet éveil pour pouvoir répondre aux défis qui sont les nôtres aujourd'hui.
Donc c'est un ouvrage qui s'adresse à tout individu qui souhaite se retrouver en quelque sorte et être. Et ça permet peut-être ensuite, avec d'autres personnes dans cette même situation, de se reconnecter et d'avoir peut-être une vision globale, peut-être beaucoup plus commune.
Oui, tout à fait. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés dans la transition écologique et sociale, qui s'intéressent, on parle ici d'écologie intérieure, mais qui n'ont pas forcément tous les éléments, une réflexion structurée, les bonnes références, etc., pour faire passer ce message dans la société, de ce besoin de changement des consciences, de ce besoin de redéfinir notre vision du progrès. Et voilà, je pense que le livre est là pour leur apporter tous les éléments dont ils ont besoin pour porter ce message.
Justement, aller à la rencontre d'indigènes au Mexique, qu'est-ce qui vous a intéressé auprès d'eux ? C'est la constitution de leur société ?
Alors, Oui, alors pour moi, c'était vraiment, à la base, c'était vraiment cette question spirituelle en soi, le rapport à la nature dans les sociétés indigènes, je pense aussi le rapport à la communauté. Et plus je creuse ces questions, plus je me rends compte de la valeur de leur culture. Et aujourd'hui, voilà, on me demande parfois quel type de pays serait le plus en avance. Est-ce que c'est, par exemple, est-ce que la politique de l'aide, c'est seulement pour les pays riches? C'est vrai que, par exemple, on prend les pays nordiques, scandinaves, qui mettent en œuvre un certain nombre de politiques que moi, je recommande et qui sont considérées comme les sociétés, peut-être, sur certaines échelles, les plus évoluées culturellement. Et qui, voilà, ont satisfait les besoins principaux de la population au niveau matériel. Ils peuvent se tourner davantage vers l'être. Mais je pense qu'en fait, on voit aussi que c'est des sociétés aussi indigènes qui sont, qui portent en fait des messages similaires sur lesquels je me suis appuyé, que ça soit le Bhoutan, par exemple, avec le bonheur national brut, ou que ça soit en Amérique du Sud, avec les questions de bien vivre, le buen vivir ou vivir bien. Philosophie politique qui met au centre, en fait, qui vraiment insiste sur l'importance de la relation aux êtres vivants et de la relation à la communauté.
Alors, il y a aussi ce positionnement d'être sur une planète. D'ailleurs, comment se situe leur société? Je parle de ces indigènes du Mexique. Ils ont un nom plus précis, j'aime pas utiliser le terme indigène.
Oui, alors il y a différents groupes de population. Moi, j'ai interagi avec certains. J'étais avec les Huichol, par exemple, au Mexique, ou avec les Massatec. Donc, il y a différentes cultures, différents peuples.
Et qu'est-ce que représente pour eux le monde dans lequel ils sont?
Alors, moi, peut-être j'aurais envie de vous parler, là, on est ici à Die. Moi, j'étais en contact, par exemple, et j'ai lu les livres d'Éric Julien, qui travaille avec les Kogi en Colombie, et qui, pour eux, qui ont un savoir vraiment, d'ailleurs, qui est reconnu même par l'ensemble des populations indigènes, beaucoup sur la planète, qui ont un savoir très profond dans leur relation avec la terre-mère, comme un organisme vivant, dont il faut prendre soin, qu'il faut même nourrir énergétiquement à travers des cérémonies, etc. Eux, ils considèrent les Blancs, on pourrait dire, dans la société colombienne dans laquelle ils vivent, ils les appellent les petits frères. Et donc voilà, ils ont cette démarche de il va falloir qu'on leur apprenne à voir le monde autrement, parce que tant qu'on ne change pas les mentalités, ils comprennent bien que notre société, en fait, elle n'a pas d'avenir dans le paradigme actuel, paradigme culturel de la modernité qui la fonde.
Quel est leur type de société dans ces populations par rapport à la terre où ils vivent? Est-ce qu'il y a des échanges? Est-ce qu'il y a aussi une volonté de préserver également?
Oui, tout à fait. Je pense que contrairement à nous, où on a été vraiment façonnés par les valeurs de l'anthropocentrisme, eux, ils se voient vraiment en lien, en faisant partie pleinement d'une communauté des vivants. Et à partir de là, on a une relation complètement différente à la Terre. Et je pense que nous, on s'aperçoit de plus en plus qu'on n'est pas séparés de la Terre, on inter-est avec la Terre. Tout ce qu'on fait à la Terre, à un moment donné, on le fait à nous-mêmes. Toutes les pollutions finalement vont finir par se retrouver dans notre corps. La Terre, en fait, est une extension de notre corps. C'est notre plus grand corps. Et je pense qu'on va redécouvrir ces sagesses au fur et à mesure dont on voit les conséquences de nos modes de vie.
Et puis, ces populations ont quand même prise avec l'actualité, l'information aussi.
Je pense que c'est très varié. Hein. On peut pas, on voit en tout cas des leaders indigènes aujourd'hui qui vont dans les événements internationaux, qui ont des smartphones, qui sont pleinement connectés et qui essayent de faire le lien entre leur communauté, leur culture et la culture moderne pour pouvoir être des vrais passeurs et de construire des ponts.
Je voulais venir là-dessus sur la culture moderne. Est-ce qu'ils se contentent aussi de ce qu'ils ont sous la main, ou alors est-ce qu'ils sont aussi abreuvés comme nous les occidentaux d'informations, de médias, de gadgets, de tout ce qu'on veut et pas forcément nécessaire?
Je pense que, voilà, encore une fois, je ne peux pas généraliser. Je pense qu'il y a tous les cas, mais bien sûr, ils n'échappent pas à la pression du monde moderne, que ce soit à travers Internet, les smartphones, la télévision, etc. Oui, la plupart, aujourd'hui, on a très peu de communautés qui vivent encore en marge de la civilisation globale, on va dire.
D'accord. Bon, c'était une image. Hein. Je voulais savoir, ce livre politique de lettres, sagesse et science, on en a un peu parlé, la science peut-être pas encore, mais pour construire le nouveau monde. Alors, celui que l'on vit actuellement est en grande difficulté. Il y a beaucoup d'incertitudes. Beaucoup de gens, peut-être, ou de personnes se sentent égarés, voire peut-être effrayés. Il y a des recherches pour contrer un peu ce positionnement et peut-être de reconstruire, comme vous dites, la société, et peut-être avec de nouveaux éléments et de nouveaux principes.
Alors, je pense qu'il faut comprendre dans ce nouveau paradigme. Moi, j'observe en fait que la réalité extérieure est créée par notre réalité intérieure, par notre culture, par les valeurs, notre vision du monde. C'est ça qui va créer au final la réalité qu'on habite. Ce monde-là aujourd'hui, qui a été façonné par la modernité, qui a apporté beaucoup de bienfaits, mais qui aujourd'hui est arrivé aux limites de ce qu'on pouvait faire dans ce cadre-là. Ce monde-là n'a pas d'avenir. On a besoin vraiment d'un nouveau paradigme, d'une évolution culturelle. Je pense que cette évolution culturelle, elle est même de nature spirituelle, dans le sens où elle doit amener un vrai progrès humain, qualitatif. Et pour moi, je pense que voilà, dans la modernité, on a voulu mettre la science au centre. La modernité s'est construite beaucoup dans après les guerres de religion, dans le refus du spirituel, on va dire, avec le religieux. Et je pense qu'on a perdu la capacité en fait à penser les fins. La science ne peut pas nous dire sur quelle valeur organiser la société, elle ne peut pas nous dire qu'est-ce qui est bon à cultiver, et donc il faut voilà, marcher sur ces deux jambes de sagesse et science. Et aujourd'hui, alors, et la science en fait, on a aujourd'hui des champs scientifiques qui se sont développés, qui sont au cœur de beaucoup d'initiatives de changement social et politiques, et qui font en fait, qui sont organisés autour des plus hautes valeurs humaines, qui sont au cœur aussi des traditions de sagesse, que ça soit la pensée systémique et pensée complexe, que ça soit le vivant, que ça soit le bonheur, l'amour ou la compassion, l'empathie, la paix, même la pleine conscience, la méditation. On a des sciences dans tous ces domaines qui peuvent nous dire comment cultiver ces valeurs, ces qualités, au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif.
Alors vous, en tant que docteur en économie, sur quoi s'articulent vos recherches par rapport à ce changement de paradigme à créer, et puis de votre documentation pour étayer un peu aussi votre travail?
Oui, alors moi, ma thèse de doctorat était sur les programmes de paiement pour services environnementaux au Costa Rica, donc des incitations économiques pour la conservation des forêts. Et en fait, une des questions sur lesquelles je suis venu, c'est dans quelle mesure ces incitations économiques peuvent influer sur la motivation, ce qu'on appelle la motivation intrinsèque. Les gens ont de fait envie de conserver, même si on ne leur donne rien pour cela. Si on commence à les payer, est-ce que ça va renforcer cette motivation naturelle, ou est-ce que ça va au contraire la diminuer? C'est-à-dire on rentre dans quelque chose de beaucoup plus utilitariste comme vision, et peut-être que après, si les gens ne voudront plus conserver sans qu'on les paye. Donc voilà, et c'est cette logique-là qui m'intéressait beaucoup, et donc j'ai amené ça dans la politique de l'être à un niveau plus collectif, pour se demander, voilà, penser, on va dire, notre société a beaucoup été influée par la vision de l'homme en tant que ce qu'on appelle l'homo economicus en économie, donc qu'on se serait tous égoïstes, compétitifs, etc. Et nos institutions, en fait, en étant basées sur ce présupposé, a tendance à le renforcer. Donc voilà, je travaille notamment sur Elinor Ostrom, qui était la première femme à recevoir le prix Nobel d'économie. Elle a dit que le principal enseignement de 50 années de recherche, quand elle a reçu son prix Nobel, elle a dit, c'est qu'au lieu justement de concevoir des institutions qui sont basées sur ce présupposé, il faut au contraire être très intentionnel pour que nos institutions, nos lois, nos politiques, au contraire, fassent ressortir ce qu'il y a de meilleur dans l'être humain. Voilà, ça a été le lien avec cette réflexion.
Et puis, il y a aussi peut-être un travail aussi sur l'économie et son impact sur les sociétés.
Oui, bien sûr. Bah, l'économie, c'est vraiment aussi le cœur de la transformation qu'on a à faire. On a vraiment, l'économie a pris une place complètement fondamentale dans nos sociétés depuis, on pourrait dire, 2 siècles. Ce n'était pas le cas avant. Et a imposé finalement sa vision de l'être humain, sa vision du monde à nos sociétés. On a besoin de défaire ça et au contraire remettre, pour moi, la culture ou la dimension intérieure au premier plan comme levier d'épanouissement des êtres humains.
Alors, il y a aussi cette direction que vous opérez actuellement sur l'Alliance. Et vous nous expliquerez ce qu'est l'Alliance ?
Oui, tout à fait. Alors, au moment où je finissais la première version de ce livre en anglais, j'ai été contacté par le Programme des Nations Unies pour le développement, avec qui j'avais déjà travaillé, pour développer ce qui est devenu l'Alliance pour des systèmes alimentaires conscients. Et on n'est que sur la transition intérieure, la dimension humaine, intérieure, culturelle du changement, comme un aspect qu'il nous faut intégrer dans tous nos efforts pour transformer les systèmes alimentaires, les systèmes agricoles. Voilà, et aujourd'hui, on a lancé cette initiative il y a un peu plus de 2 ans. Et on a vraiment du succès. On a 400 membres. On voit beaucoup d'intérêt autour de nous pour ce travail. Les gens sont vraiment heureux qu'on ouvre un espace de discussion, qu'on fasse tomber ce tabou de cette dimension intérieure.
Vous écoutez l'interview du jour sur RDIWA.
La radio du DIWA.
107.5.
101.7.
FM.
Comment s'opèrent justement ces études ? Il y a un travail de terrain également ou alors c'est beaucoup plus sur la documentation ?
Alors, on est une alliance, donc on a 400 membres, beaucoup d'un peu partout dans le monde. Beaucoup font des travaux très proches du terrain. Et voilà, notre travail, c'est de faire connaître ce qu'ils font, leurs approches, pour que d'autres partenaires puissent les mettre en œuvre. Et aussi de développer des arguments, des outils concrets, des manières de faire que chacun peut intégrer dans leur travail.
Et en même temps, essayer d'adapter aussi en fonction des pays, des fois des systèmes qui peuvent fonctionner dans un et pas dans l'autre. Donc vous prenez part aussi de tous ces aspects de possibilité, de faisabilité.
Oui, tout à fait. Alors, comme je disais, nous, on est une alliance. Donc, l'idée, c'est pas de se substituer à nos membres qui font le travail sur le terrain. C'est plutôt de les aider, notamment en les reliant entre eux. Mais on a financé aussi quelques interventions sur le terrain directement. Et on a développé, par exemple, une méthodologie pour que les communautés locales puissent discuter de leurs valeurs. Souvent, on n'est pas très conscient, finalement, on n'y réfléchit pas beaucoup, c'est quoi nos valeurs. Et voilà, on a développé une méthodologie pour que, avec un questionnaire, pour mettre en avant, en regardant 6 dimensions, la relation à soi, la relation à la famille, à la communauté, à la nature, aussi au sacré, aux ancêtres, et enfin à l'action. Et voilà, ils remplissent ce questionnaire et après on discute et on voit que ça permet de mettre le doigt sur des choses qu'il faudrait cultiver. Ils développent à la suite un plan d'action vraiment sur cette dimension intérieure de la transition.
Je reviens un peu, là on a fait un petit détour pour la conférence de demain, mais je reviens donc à cette politique de l'être. Il y a donc une remise en question nécessaire de société, mais aussi des individus. Et là, c'est toute la problématique. Sur quelle base pouvoir s'adapter à ce futur, parce qu'il est à construire également.
Oui, ben je pense que pour moi, la connexion à soi, elle est fondamentale. C'est là où se trouvent les réponses de quel est mon rôle, qu'est-ce que je fais ici. Et aussi peut-être se positionner dans une vision plus large. On a beaucoup peur des possibles effondrements. Moi, ce que je veux dire, c'est que finalement, il y a quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. On a les conditions pour faire cette transformation culturelle, cette transformation spirituelle. Et c'est quelque chose qui a été annoncé et attendu depuis très longtemps, et on est dans cette époque-là. Et donc le plus important pour moi, c'est pas de se dire est-ce que ça va s'effondrer ou pas, c'est plutôt est-ce qu'on va faire enfin cette percée tant attendue.
Dans l'air du temps, il y a à court terme cette grande inquiétude hein, de ces déstructurations de gouvernements, de services d'État et peut-être aussi du fascisme qui arrive. Mais dans le long terme, est-ce que c'est une nécessité pour reconstruire?
Oui, tout à fait. Alors, pour continuer un petit peu ce que je dis, pour moi, ce qui est important, on voit que historiquement, ce type de transition, on voit comment la modernité, on va dire par exemple, s'est imposée en quelques siècles, entre le 16e et le 18e siècle, grosso modo. Là, on doit dépasser ce paradigme de la modernité. Ça va pas, ce n'est pas facile. C'est notamment, on a besoin finalement de graves crises pour pouvoir aller dans cette remise en question vraiment profonde. Et pour moi, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on est capable de faire grandir cette nouvelle conscience, ce nouveau modèle culturel, pour qu'au moment où on puisse être confronté à des effondrements, etc., on ait un système qui soit déjà prêt à prendre le relais.
Alors, comme vous le disiez tout à l'heure, il y a la science, certes, mais il y a aussi cette spiritualité qui permet de peut-être fédérer, canaliser, diriger aussi un peu ces connaissances. Il y aura toujours quand même une quête de spiritualité dans toute société.
Oui, je pense qu'elle est, inhérente à l'être humain, à ce que l'on est, et je pense que c'est... dommage qu'elle soit devenue tabou souvent dans nos sociétés. Comme je disais, c'est lié à l'histoire de la modernité. On a jeté le bébé avec l'eau du bain, on a jeté la spiritualité avec les religions. Et oui, je pense que c'est un élément fondamental d'épanouissement. On peut avoir aussi une spiritualité laïque d'ailleurs, hein, non religieuse. Mais je pense que c'est un élément fondamental d'épanouissement humain et que c'est vraiment la voie aujourd'hui. Vous voyez, un organisme, il a une certaine taille. Il ne peut pas continuer à croître une fois qu'il a atteint sa taille normale. Par contre, on peut continuer à croître à l'intérieur. Et c'est là-dessus qu'on devrait se focaliser. Là, il y a un potentiel énorme de bien-être, d'harmonie. Le changement doit venir de cette croissance intérieure.
Là, je me tourne donc maintenant pour cette conférence demain vers des systèmes alimentaires conscients. Donc ça, c'est aussi peut-être une découverte que vous avez peut-être dû observer dans vos voyages, dans ces sociétés. Est-ce qu'il y a justement cette conscience de l'alimentation?
Oui, alors on a appelé ça système alimentaire conscient. Dans le sens, en fait, c'est vraiment, on est centré sur la transition intérieure, comme je le disais, sur le changement de valeurs, de mentalité, de vision du monde et tout ce qu'on appelle des compétences humaines transformationnelles. Oui, alors quand on a défini différents points d'entrée pour cet agenda sur toute la, à différents endroits du système alimentaire, que ce soit au niveau des agriculteurs, mais jusqu'au niveau des consommateurs, en passant par les politiques, etc. Je crois que votre question faisait référence à un point important, c'est la question des cultures alimentaires, et notamment dans les pays du Sud. Ces cultures alimentaires traditionnelles souvent sont dénigrées et les populations valorisent davantage les aliments importés qui viennent de notre culture alimentaire plutôt occidentale, qui sont généralement néfastes pour leur santé. Et donc réhabiliter, revaloriser ces cultures alimentaires traditionnelles, c'est vraiment important. On a des membres qui travaillent là-dessus de manière très concrète.
Ça, c'est le danger aussi des monocultures hein, qui sont établies souvent dans les pays en voie de développement et au détriment des populations. Il y a l'exemple de la Côte d'Ivoire avec le chaos, par exemple. J'ai reçu des personnes qui se sont retrouvées à ne pouvoir rien faire parce que tout est occupé par cette... économie occidentale de profit. Donc, alors, il y a cette conscience alimentaire peut-être aussi opérée en Occident. Ça a commencé déjà, mais il y a quand même un gros travail à venir. Alors, comment s'opère cette prise de conscience des alimentations au niveau de la population, du consommateur, mais aussi des producteurs?
Alors, oui, de plein de manières différentes. Nous, par exemple, on essaye, et c'est, ça va être aussi le sens de la conférence demain, de montrer que la transition agroécologique est aussi une transition intérieure, que les pratiquants de l'agroécologie, finalement, développent à travers cela des qualités humaines, une vision du monde, des valeurs assez différentes, et on pense qu'elles sont importantes à cultiver pour renforcer la transition. Une valeur importante, je dirais, qui les relie aux consommateurs, c'est cette question aussi de la solidarité. On voit que c'est vraiment important pour favoriser cette production agroécologique. On a bien sûr besoin de gens qui vont pouvoir l'acheter, et c'est en venant ensemble, quand dans des dans des systèmes par exemple d'AMAP, etc. Moi hier, on me parlait ici à dit de comment la coopérative bioalimentaire, elle s'appelle, voilà, tout à fait, investissait pour établir des agriculteurs biologiques, de sorte à pouvoir mettre en place les filières dont ils ont besoin. Donc voilà, c'est très important à mon avis de relier les deux. Et je dirais de manière générale, voilà, c'est cette relation bien sûr à soi, à la nature, mais aussi aux autres, qu'il est important, à travers des circuits courts notamment, qu'il est important de remettre au premier plan, puisque aujourd'hui ces filières, vous parlez du cacao en Côte d'Ivoire, c'est des filières internationales où on est vraiment qui sont très grandes et qu'on est vraiment déconnecté. Les producteurs et les consommateurs sont vraiment déconnectés. Et voilà, on a besoin de rétablir cette dimension humaine dans l'échange de proximité pour aller vers des systèmes alimentaires plus conscients.
Et vous parlez justement de économie circuit court. Il y a l'économie circulaire aussi. Est-ce que vous avez découvert aussi cet aspect dans vos voyages, dans vos études? Et est-ce que ici on peut essayer de trouver la transcription, hein, le circuit, l'économie circulaire est quand même bien implantée dans le Diwa, mais je pense qu'il y a encore moyen de développer cet aspect-là.
Bien sûr. Je dirais qu'il y a aussi beaucoup de... Nous, on a des membres qui s'intéressent notamment au ce qu'on appelle la sagesse traditionnelle des peuples indigènes et des communautés locales, et comment ils ont une compréhension naturelle de ces cycles et qui peuvent proposer des nouveaux modèles pour intégrer cela à la manière dont fonctionnent les systèmes alimentaires. Aujourd'hui, hier, je travaillais avec une dizaine de nos membres sur une proposition où il s'agit de mettre en place des principes de la nature dans la manière dont les organisations fonctionnent. Voilà. Est-ce qu'on peut fonctionner? Par exemple, on a un partenaire qui est en train de mettre en place, par exemple, une formation en fonctionnant de manière... vraiment complètement décentralisé, en collaboration avec des centres un peu partout dans le monde qui sont à l'intersection de ces domaines de l'alimentation et de la spiritualité ou du développement intérieur. Et voilà comment on peut fonctionner un peu comme un organisme vivant pour offrir une formation avec une composante en ligne et une composante sur le site. Et voilà, dépasser les limites organisationnelles de différentes organisations, mais pour offrir quelque chose ensemble.
Demain matin, donc à 10h, ce dimanche 2 février, il y aura cette conférence vers des systèmes alimentaires conscients, et vous serez accompagné de Claire Montesinos, qui est une agricultrice locale, hein, de Barnave. Pour vous, ça sera peut-être d'échanger aussi sur les constats et peut-être les évolutions probables à amener dans nos sociétés futures ou de renouveler.
En fait, on veut donner la parole aux agriculteurs biologiques d'ici pour qu'ils nous parlent vraiment de la dimension intérieure de leur travail. Nous, on a fait un petit travail de recherche. On a interviewé un certain nombre d'agriculteurs biologiques ou de leaders agroécologiques dans le monde pour qu'ils nous parlent de cette dimension-là. Donc, on va partager un petit peu le résultat de ce travail. Mais surtout, on veut écouter les témoignages des paysans, des agriculteurs du Diwa, pour qu'ils... souvent, c'est un domaine qui n'est pas très visible, mais on pense que c'est un qu'il faut lui donner vraiment la place qu'elle mérite.
Il y a une chose que je trouve intéressante, c'est dans cet ouvrage « Politique de l'être », je vois sous-titre « Traduit de l'anglais par Xavier Boitel ». Donc, vous écrivez vos ouvrages en anglais ?
Oui, alors c'était un défi un petit peu fou, mais c'est vrai que ce livre est d'abord sorti en anglais. Pour différentes raisons. La première, c'était que beaucoup des références sont en anglais. Et surtout, je dirais, la principale raison, c'est que voilà, c'est un concept qui, à mon avis, a une portée internationale. Et donc, si on veut l'amener dans le débat et trouver des relais, il était très important qu'il puisse être disponible très vite en anglais.
Et ça, vous pensez que l'anglais est une des clés aussi de manière à mieux communiquer au travers du monde, au-delà de notre territoire français?
Oui, bien sûr. Bah, disons, l'anglais, aujourd'hui, c'est quand même la langue à travers laquelle on peut plus facilement se communiquer au niveau international. Et c'est aussi... Il y a un certain nombre de concepts auxquels je fais référence qui ont été souvent fondés dans le monde anglophone. Donc, il est important de vraiment pouvoir intégrer cela. Alors, il y a eu un effort pour la traduction française, de voir comment ça se traduit en français. Mais je pense que, voilà, même si c'était un sacré défi, je suis très heureux d'avoir pu l'écrire d'abord en anglais. Ouais.
Et puis, il y a une nécessité pour être lu au niveau des Nations Unies, hein, de toute manière.
Tout à fait.
Alors, politique de lettres, sagesse et science pour construire le nouveau monde, c'est édité aux éditions Robert Laffont. C'est disponible à la librairie Mosaïque, j'imagine. Et quels sont d'autres ouvrages? Est-ce qu'il y a un rapport avec cette conférence de demain sur les alimentaires conscients? Et cette politique de lèvres, est-ce que vous abordez ce sujet ou alors c'est un autre ouvrage?
Non, alors on me demande souvent voilà, le lien entre les deux. Il y a beaucoup de synergie entre ce livre que j'ai pu faire et mon travail. Donc je gère le secrétariat de cette Alliance pour des systèmes alimentaires conscients. Moi, j'ai trouvé qu'au moment où j'ai fini d'écrire mon livre, je me disais, j'avais mis beaucoup d'efforts, j'avais aussi une partie de mes économies qui était partie dans l'écriture de ce livre. Je me dis, bon, maintenant, je dois reprendre mon travail qui était plutôt dans le domaine de l'environnement. Mais voilà, je sentais que mon cœur était vraiment dans porter ce message. Et je me disais, bon, bah, qu'est-ce qui va se passer? Il n'y a pas vraiment de travail dans ce domaine. Et la vie m'a offert cette opportunité de développer quelque chose de très similaire, finalement, au niveau des Nations Unies. Donc ça a été vraiment une opportunité formidable. On a écrit, je crois qu'il est, je dirais que la continuation, c'est que les gens reconnaissent le travail qu'on a fait en termes de leader d'opinion, on va dire, pour positionner ce sujet dans le domaine des systèmes alimentaires. Donc c'est pour moi une application de la politique de l'aide dans un secteur et qui est une expérience pour moi vraiment très enrichissante pour voir comment je vais pouvoir apporter et mettre en œuvre cette vision de la politique de l'aide dans de nombreux secteurs.
C'est la dernière question. Est-ce que vous avez ressenti une certaine sérénité par rapport à l'ONU, les Nations Unies, vis-à-vis de cette politique américaine actuelle avec ce gouvernement Trump, notamment? Est-ce qu'il y a des inquiétudes au niveau des Nations Unies sur ce qui peut se produire et peut-être mettre à mal beaucoup de programmes?
Bah bien sûr, je pense que même de manière générale, je pense que voilà, Trump va à l'encontre de tout ce qui devrait arriver en termes de gouvernance internationale. On a besoin de régler ces problèmes ensemble. On n'a pas besoin de revenir à un nationalisme où chacun pense qu'il peut s'en sortir tout seul. Au niveau des Nations Unies en particulier, bon, il y a eu un gel annoncé de l'aide publique au développement américaine. Et il sort aussi de l'accord de Paris. Donc il va y avoir beaucoup moins. Ça va affecter grandement les financements et puis aussi surtout la dynamique politique, je dirais, notamment sur le climat. Donc voilà, je pense que c'est quand même une crise très grave qui se profile. On a déjà une crise du multilétarisme. On voit bien que les pays, on a des fracturations géopolitiques de plus en plus marquées au moment où on devrait plutôt avancer en termes de gouvernance mondiale. Donc oui, c'est vraiment un problème. Nous, dans notre initiative, je dirais qu'on est tellement innovant que finalement, on a dû aller chercher des financements plutôt au niveau de fondations privées, etc. Les gouvernements n'étaient pas encore très prêts, voilà, n'avaient pas vraiment identifié cet agenda comme quelque chose qu'ils comptaient soutenir. Je pense qu'on va pouvoir y arriver. Mais du coup, voilà, on a dû aller chercher des sources de financement qui sont moins menacées par cette baisse de l'aide publique au développement. On voit qu'elle arrive aux États-Unis à travers Trump. Ça va être aussi le cas en France par rapport à la crise fiscale et dans de nombreux pays. Donc voilà, ça va être un temps assez difficile pour les Nations Unies et tout ce secteur du développement et de l'action climatique.
Et beaucoup de travail pour vous, donc Thomas Legrand. Eh bien, je vous remercie en tout cas d'être venu sur nos micros de RDWA pour nous parler donc de Politique de l'être, un ouvrage édité aux éditions Robert Laffont. Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci beaucoup, c'était un plaisir. Au revoir.
Ser esclava.